RFI, il est midi et demi en temps universel et à Abidjan, 13h30 à Paris. Et Afrique Midi, c'est avec vous Arthur Ponchelet, bonjour.
Bonjour Alban et bonjour à vous qui nous écoutez. À la une ce midi, le drapeau orange, blanc et vert flotte seul au-dessus de Port-Boué. La base militaire a été rétrocédée tout à l'heure par la France. Nouvelle étape de la réorganisation militaire française en Côte d'Ivoire. On est à Abidjan dans un instant. Fin des assises nationales au Niger, les délégués ont rendu leurs conclusions et ils proposent une durée pour la transition, 5 ans. Le général Tiani a promis de concrétiser toutes les recommandations de ces assises. Le cinéma aura été toute ma vie, pour cela je remercie le cinéma. Pluie d'hommage à Souleymane Cissé. Aujourd'hui, le réalisateur malien nous a quittés hier à l'âge de 84 ans. Il était l'une des figures du 7e art sur le continent.
Et sa carrière, on y revient avec votre invité juste après ce journal, Catherine Ruel, ancienne journaliste et spécialiste du cinéma africain.
Au sommaire également, on sera à Kinshasa pour faire le point sur la situation dans l'est de la RDC et ses scènes de pillage signalé à Uvira. Et puis victoire judiciaire pour Samuel Eto'o au Cameroun. Le jury d'appel de la CAF a annulé son amende dans l'affaire des matchs truqués et des paris sportifs. Près de 2 mois après l'annonce d'Alassane Ouattara, le camp militaire de Port-Boué a été rétrocédé par la France aux autorités ivoiriennes. C'était tout à l'heure lors d'une cérémonie en présence du ministre français des Armées et de son homologue ivoirien. Bonjour Binta Diagne.
Bonjour.
Correspondante de RFI à Abidjan, c'était une cérémonie très symbolique.
Oui, symbolique et même historique selon les mots des officiels présents. Côté français, il y avait le ministre des Armées, Sébastien Lecornu. À ses côtés, le général Pascal Yanni, qui dirige le commandement sur l'Afrique pour la France, et l'ambassadeur de France. Côté ivoirien, le vice-président, le premier ministre, le ministre de la Défense et le chef d'état-major de l'armée. Ils ont dévoilé l'arche à l'entrée du camp, rebaptisé camp général de corps d'armée, Thomas Ouattara d'Aquin. C'était le premier chef d'état-major des armées ivoiriennes. Ensuite, la première sentinelle ivoirienne a pris la relève de la garde française à l'entrée du camp. Les militaires français ont symboliquement remis à la sentinelle ivoirienne les cartes d'accès du poste de commandement. Puis le drapeau ivoirien a été hissé sous les yeux d'un public trié sur le volet. Et pour clore ce moment, les deux hymnes nationaux ont ensuite été joués.
Que peut-on retenir, Binta, des discours prononcés ensuite par les deux ministres de la Défense ?
La France transforme sa présence, la France ne disparaît pas, a déclaré Sébastien Lecornu, le ministre des Armées. En effet, 80 militaires vont rester en appui pour des formations et selon les besoins exprimés par l'armée ivoirienne. Le ministre ivoirien de la Défense, Tene Birahima Ouattara, parle de relations décomplexées avec la France. Le ministre d'État évoque aussi l'espoir d'une coopération dynamique avec Paris. Concernant enfin le camp militaire de Port-Boué, les forces armées ivoiriennes s'engagent à en faire un centre de discipline et d'excellence, a assuré Tene Birahima Ouattara.
Binta Diagne en direct d'Abidjan pour RFI. Au Niger, clap de fin des assises nationales ce matin. Après 6 jours de travaux, les commissions ont rendu leurs conclusions. Bonjour David Bachet.
Bonjour Arthur.
Les 716 délégués formulent d'importantes recommandations que le chef de la junte a promis de mettre en œuvre.
Principale recommandation, fixer la durée de la transition à 5 années au minimum, puisque cette durée serait renouvelable. En conclusion des assises figure aussi la dissolution des 172 partis politiques existants au Niger. Abdourahmane Tiani, chef du CNSP et chef d'état de fait du Niger depuis le coup d'état militaire de juillet 2023, deviendrait officiellement président de la République, même s'il n'est pas élu, ce qui ne serait pas son unique promotion. Actuellement général de brigade, Abdourahmane Tiani pourrait devenir général d'armée 5 étoiles, comme le président malien de transition, Assimi Goïta. Les participants aux assises ont également recommandé que tous les militaires du CNSP qui ont participé au coup d'État et renversé Mohamed Bazoum soient amnistiés et éligibles à de futures élections. À l'unanimité, les délégués proposent de maintenir le régime républicain de l'État, du moins dans les termes. Autre recommandation, reconnaître officiellement l'islam comme religion majoritaire dans le pays. Une charte de transition devra détailler les termes d'une nouvelle constitution. Lors de la clôture de ces assises nationales, le général Tiani a promis de concrétiser toutes les recommandations.
David Bachet, le cinéma malien est orphelin aujourd'hui. Il a perdu l'un de ses géants, Souleymane Cissé, le réalisateur multiprimé dans le monde entier, nous a quittés hier, il avait 84 ans, premier cinéaste d'Afrique Afrique noire, primé à Cannes. C'était en 87 avec le prix du jury. Il était considéré par beaucoup comme l'un des pères du cinéma africain. Alors forcément, depuis hier, les réactions pleuvent dans le monde du 7e art. Je vous propose d'écouter le cinéaste tchadien Mahamat Saleh Haroun, l'un des proches du réalisateur.
Je garde en souvenir Cissé sur la croisette, cette icône, en fait, cette image iconique de Cissé dans son grand boubou blanc. On pouvait le reconnaître entre des centaines de milliers de personnes. Et ça, c'est l'image que je garde de lui. D'ailleurs, Cannes ne s'est pas trompé, parce que quand il y a eu à un moment donné, je ne sais plus quel anniversaire du Festival de Cannes, il y avait Cissé, c'était le seul qui représentait l'Afrique, et il était dans ce boubou blanc, on dirait un ange dans cette foule sur la croisette, et je pouvais le repérer à mille lieues, et ça c'est l'image que je garde de lui, comme quelqu'un de pur en fait, et de d'angélique. Moi j'adorais son rire et son sourire, parce que à chaque fois que je le rencontrais, c'était ça d'abord, cette espèce de luminosité qu'il avait dans les yeux, et ça je pense que c'est la passion non seulement du cinéma, mais de la vie. C'était quelqu'un de très positif.
Mahamat Saleh Haroun avec Edmond Sadaka, l'œuvre et la vie de Souleymane Cissé. On en parle en longueur après ce journal avec notre invitée, Catherine Ruel, ancienne journaliste cinéma à RFI et spécialiste du 7e art africain. Autre disparition que l'on a appris, celle du père de la star internationale Youssou N'Dour, Eliman N'Dour. Il est décédé ce mercredi à Dakar. Il avait 98 ans. Il doit être inhumé aujourd'hui. En bref, au Sénégal, vers des fouilles archéologiques pour savoir combien de tirailleurs africains ont été tués par les forces coloniales françaises à Tiaroy le 1er décembre 44, alors qu'ils réclamaient leur solde. Annonce du Premier ministre qui ne précise aucune date à ce stade. Ces fouilles sont réclamées depuis plusieurs années par les historiens. À l'écoute de RFI, il est 12h37 en temps universel. Après la prise de Bukavu ce week-end, puis celle de Kamanyola il y a deux jours, les combattants de l'AFC M23 soutenus par le Rwanda continuent leur progression dans le sud Kivu, à l'est de la RDC. À Uvira, ville frontalière avec le Burundi, des scènes de pillage ont été signalées, notamment dans la journée d'hier. Coralie Pierret, vous êtes en direct de Kinshasa pour RFI ce midi. Quelle est la situation à Uvira ?
Eh bien, ce matin aussi, des scènes de pillage ont été rapportées par plusieurs habitants sur place à Uvira, la deuxième ville du sud Kivu, et vous l'avez dit, frontalière avec le Burundi. Des pillages chez un pasteur et chez des particuliers, notamment en centre-ville d'Uvira. Un témoin raconte à RFI avoir vu des hommes armés. Certains parmi eux, je cite, avaient fui Bukavu, le chef-lieu de la province, avant l'arrivée ce week-end du M23 soutenu par le Rwanda. Ce matin, ils ont d'abord forcé la porte de la maison, puis ils sont arrivés en grand nombre pour récupérer des haricots, du riz et de la nourriture, poursuit ce même témoin. Dans certains quartiers plus éloignés, les activités restaient timides ce matin. Très timides ce matin, quelques personnes se sont aventurées dans la rue pour puiser de l'eau ou pour acheter de la nourriture, mais la circulation était quasi inexistante. Hier aussi, des pillages impliquant des hommes armés, parmi lesquels certains éléments de l'armée congolaise avaient également été signalés, ainsi que des affrontements entre militaires FARDC et Wazalendo, les milices pro-gouvernementales. Le bilan officiel n'est pas encore connu. Contacté par RFI, les autorités congolaises n'ont pas encore réagi.
Coralie Pierret en direct de Kinshasa pour RFI. Sur le plan diplomatique pendant ce temps, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est à nouveau réuni hier. Réunion d'urgence pour discuter de la guerre dans l'est de la RDC et l'avancée du M23. Kinshasa réclame des sanctions contre le groupe armé et son parrain, le Rwanda. Mais après plus de 3 heures de discussion, toujours aucune décision concrète. RFI New York, Loubna Anaki.
Ce conseil qui observe, ce conseil qui condamne, mais ce conseil qui n'agit pas.
Devant les membres du Conseil de sécurité de l'ONU, la ministre des Affaires étrangères congolaise ne mâche pas ses mots. Thérèse Kayikwamba-Wagner critique l'absence d'une résolution claire pour mettre fin aux violences en République démocratique du Congo. Elle réclame, je cite, « l'adoption de sanctions contre les responsables politiques et militaires rwandais impliqués dans cette agression, un embargo sur les exportations de ressources naturelles en provenance du Rwanda, ainsi que l'arrêt des combats et le retrait des troupes rwandaises ».
Le temps des débats théoriques est terminé. Il est temps de faire respecter les principes qui définissent cette institution. Paix, sécurité et respect du droit international. Le droit international qui s'applique à tous. Rester silencieux pendant que des civils sont tués n'est pas une solution.
is not a solution.
Face à elle, les membres du Conseil ont reconnu l'urgence de la situation et ont une nouvelle fois dénoncé les agissements des rebelles du M23 et l'implication du Rwanda. L'ambassadeur français a évoqué un projet de résolution en discussion, mais pour le moment, aucun texte ne semble bénéficier d'un soutien suffisant pour être soumis au vote ou être adopté. Lubnanaki, New York, RFI.
Cette avancée du M23 soutenue par le Rwanda se poursuit donc dans l'est de la RDC. Je vous le disais, ce week-end, la ville de Bukavu est passée sous contrôle du groupe armé. Dans la capitale du Sud Kivu, l'heure est au ramassage des armes abandonnées, armes qui auraient été laissées par les militaires congolais en quittant la ville ou bien distribuées. Elles auraient ensuite été ramassées par des enfants. Alexandra Branjon.
Depuis lundi, des dizaines de volontaires sillonnent la ville de Bukavu pour ramasser ses armes abandonnées. Sadiki, la vingtaine, est motard. Il s'est joint au nettoyage du quartier Nyalukemba.
J'ai transporté vers le Kansayo 180 armes que nous avons ramassées, qui étaient utilisées par des enfants. Nous étions une équipe de motards. Pour nous remercier, le M23 nous a donné deux sacs de farine de 25 kilos chacun. À l'entrée du Kansayo vers le cimetière, nous avons ramassé 16 armes abandonnées dans une guérite. Il y en avait aussi dans le cimetière.
Pour le pasteur Albert Migabo Nyagaza, qui coordonne l'opération avec une vingtaine de chefs de quartier, le temps presse.
Aujourd'hui, nous pouvons déjà compter au moins 200 armes qui ont été ramassées et déposées déjà dans les cas militaires. Nous avons ramassé aussi des bombes, des cartouches, il y avait des uniformes militaires. Il y a aussi des Motorola qui ont été jetés. L'opération n'est pas encore finie. Nous continuons toujours à regretter comment ces armes-là pouvaient se retrouver dans les mains des enfants de 15 à 17 ans au moins. Et ça a été une surprise pour nous.
Le pasteur interpelle ses concitoyens face au danger de ces armes qui circulent en ville. En 3 jours, 4 personnes ont été tués par des enfants, dit-il, appelant ceux qui cachent encore des armes à les ramener au camp militaire.
Alexandra Branjon, et aujourd'hui, nouvelle journée consacrée aux travaux communautaires. Une nouvelle journée donc est prévue pour nettoyer la capitale du Sud Kivu. Plus de 600 millions d'euros de bénéfices en 2023, plus 23% de chiffre d'affaires. Les bons résultats d'Orano, dévoilés hier, le groupe minier français parle même d'une année exceptionnelle. Charlotte Cossès, cela s'explique par la signature de contrats avec le Japon, de cours favorables, autant de facteurs positifs qui ont permis d'absorber les pertes au Niger.
Une année faste, cependant marquée d'un coup dur.
Il y a eu un événement douloureux qui est la perte de contrôle opérationnel de nos filiales nigériennes.
Nicolas Metz, le directeur général d'Orano.
Ce qui a conduit à la déconsolidation de ces filiales dans nos résultats financiers.
Conséquence, une baisse des résultats opérationnels du secteur mine, mais au final sans impact sur les résultats généraux. Au Niger, Goviex, l'entreprise canadienne qui s'était vue retirer son permis de Madawela, a elle annoncé mardi avoir trouvé un terrain d'entente pour débuter des négociations avec les autorités nigériennes. Nicolas Metz insiste, Orano a cherché une résolution à l'amiable avec Niamey.
La situation est un peu différente pour nous, c'est que nous ne parvenons pas à entamer des discussions avec l'État du Niger qui refuse catégoriquement de nous adresser la parole, que ce soit en présence, par écrit ou en vidéo call. C'est ce qui nous pousse à poursuivre nos démarches juridiques et nos arbitrages internationaux. Important de préciser que dans le cadre de ces arbitrages, on se réserve également le droit d'initier toute autre action, y compris contre des tiers, en cas de préemption de la matière présente sur site en violation de nos droits d'enlèvement.
La production d'Orano au Niger représentait environ 15% total du groupe qui travaille pour compenser à de nouveaux projets, notamment en Mongolie, en Ouzbékistan ou en Namibie.
Charlotte Cosset, pendant ce temps au Niger, la société civile s'inquiète du réaménagement du site de la Comina, qu'il y a 3 jours, elle a fait part de son inquiétude sur les conséquences environnementales notamment. Sollicité sur cette question, Orano n'a pas encore apporté de réponse. On ouvre une page de sport avant de refermer ce journal. Une page qui nous emmène d'abord au Sénégal, où la police nationale suspend jusqu'à nouvel ordre la gestion de la sécurité des combats de lutte. Conséquence de nouveaux incidents dimanche dernier et la mort d'un supporter à l'issue d'un événement sportif. La Commission nationale des droits de l'homme a appelé à suspendre provisoirement les combats de lutte alors que de nombreux galas de ce sport très populaire dans le pays sont programmés dans les prochains jours. Léa Lisa Vesteroff.
À l'origine des problèmes, la survente de billets pour assister au combat de lutte dimanche dernier à l'arène nationale. D'une capacité maximale de 25 000 personnes, c'est lorsque la police a interdit les spectateurs en surnombre d'entrées que la violence a éclaté, avec des actes de vandalisme et des dégradations. Et plus tard dans la soirée, l'agression mortelle d'un jeune à quelques kilomètres de l'arène, dans la banlieue dakaroise. Après la décision de la police de ne plus assurer la sécurité et de suspendre les combats à venir, le comité de gestion de la lutte s'est immédiatement réuni ce mercredi. Proposition a été faite de créer une commission chargée de vérifier la billetterie et de limiter la vente à 22 000 tickets maximum. Idem pour les horaires. Avancé à 16h30 pour le premier combat, le dernier devra se terminer à 19h maximum, assure le comité de gestion qui a remis un document au ministère de l'Intérieur. L'objectif, que les autorités reviennent sur leurs décisions et autorisent les derniers combats programmés avant la pause du Ramadan. Les enjeux financiers sont importants pour les organisateurs de ces combats de lutte très populaires, mais également pour les lutteurs eux-mêmes et toute l'économie informelle qui gravite autour de ce sport national. Des rencontres sont programmées presque chaque jour jusqu'à mercredi prochain. Léa-Lisa Vesterhoff, Dakar, RFI.
Du football au Cameroun et ce retournement de situation dans l'affaire des matchs truqués et des paris sportifs impliquant Samuel Eto'o, le jury d'appel de la CAF a annulé son amende de 200 000 dollars. Joël Wadem, cette décision fait suite à un recours déposé par ses avocats et elle pourrait permettre au président de la FECAFOOT d'être candidat au comité exécutif de la CAF.
C'est une importante victoire que Samuel Eto'o vient de remporter face à la CAF. Alors que le président de la FECAFOOT était candidat au comité exécutif de la Confédération, son dossier a été rejeté. Le motif, la condamnation à une amende de 200 000 dollars de l'ancien capitaine des Lions indomptables en juin 2024 par le jury disciplinaire de la CAF suite à une affaire de matchs truqués et de paris sportifs. Les avocats de l'ancien attaquant du FC Barcelone qui avait fait appel de cette condamnation ont également saisi le tribunal arbitral du sport pour contester le rejet de la candidature du quadruple ballon d'or africain. Mais pour que le TAS se prononce, le verdict du jury d'appel de la CAF devait être rendu. C'est ce qui a été fait ce mercredi. Cette instance a estimé que le jury disciplinaire était incompétent pour statuer sur des questions d'ordre éthique. La CAF ne disposant pas d'une commission d'éthique, c'est donc le TAS qui se prononcera sur cette affaire. En cas de non-condamnation, le président de la FECAFOOT pourra candidater à l'élection des membres du comité exécutif qui se déroulera le 12 mars prochain au Caire. Joël Wadem, Yaoundé, RFI.
Alban Le Prince, les titres de ce jeudi.
Et au Proche-Orient, le convoi transportant les 4 cercueils rendus ce matin par le Hamas est arrivé tout à l'heure à Tel Aviv. D'après le groupe palestinien, il s'agit des corps de la famille Bibas, Ariel, Ekvir et leur mère, ainsi qu'Oded Lifshitz. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, reçoit aujourd'hui l'émissaire de Donald Trump pour l'Ukraine, Keith Kellogg, tandis qu'en France, Emmanuel Macron, le président, reçoit depuis ce matin les chefs de partis politiques pour évoquer la guerre en Ukraine et la sécurité en Europe. Le Sénat français, lui, vient de voter en faveur de l'interdiction du mariage pour les étrangers en situation irrégulière. Texte soutenu par le gouvernement, mais qui devrait se heurter à la jurisprudence constitutionnelle. Luis Rubiales, l'ancien patron du foot espagnol, condamné aujourd'hui à une amende. Il a été reconnu coupable d'agression sexuelle dans l'affaire dite du baiser forcé sur la footballeuse Jenny Hermoso. On en parlait il y a quelques minutes, une légende de cinéma nous a quittés. Hier, le réalisateur malien Souleymane Cissé est décédé à Bamako à l'âge de 84 ans. Il laisse derrière lui une trentaine de films et sa carrière, on y revient avec votre invité Arthur.
Bonjour Catherine Ruel.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez longtemps été journaliste sur RFI, présenté l'émission Cinéma d'aujourd'hui, Cinéma sans frontières. Vous connaissez très bien la carrière de Souleymane Cissé, vous l'avez rencontré plusieurs fois. Depuis hier, c'est une véritable pluie d'hommages à laquelle on assiste. Vous, quel souvenir est-ce que vous gardez de lui ?
Alors moi, c'est très compliqué si je dois vous raconter les souvenirs de Souleymane Cissé parce que je l'ai connu après son premier film qui a été primé, donc en 73. Donc de 1973 à maintenant, ça fait quand même un paquet d'images de Souleymane Cissé que j'ai dans la tête, d'autant plus qu'on était plus que des simples journalistes cinéastes, comme beaucoup de cinéastes à l'époque. On avait noué des amitiés profondes parce qu'on était tous dans une bagarre de cinéma, mais une bagarre morale aussi, pour faire exister une autre vision du continent africain. Donc les images que j'ai de Souleymane, c'est des images de quelqu'un qui riait souvent, quelqu'un qui avait du mal à parler de lui comme à parler de ses films. C'est quelqu'un qui n'aimait pas forcément se mettre en avant, Souleymane, mais qui faisait un travail incroyable. Il disait souvent qu'il était à la recherche de la façon de montrer les cultures fondamentales en fait du continent, de façon à ce que à la fois les spectateurs africains, mais aussi les spectateurs occidentaux, puissent se rendre compte de l'importance de toutes ces cultures qui, évidemment, avaient été niées par la colonisation. Il faut se rappeler que quand il a commencé, c'était à peine une dizaine d'années après l'indépendance. Hein. Mmh. C'est un autre état d'esprit à l'époque.
Justement, Souleymane Cissé, on le présente souvent comme le père du cinéma africain. En quoi est-ce qu'il a marqué le 7e art sur le continent ?
Alors, pas le père du cinéma africain, je dirais un des pères, parce qu'il y avait quand même Sam Ben Ousmane avant lui, et que lui était de la génération de Mahamat Traoré, de Djibril Diop Mambéty. C'est la deuxième génération de cinéastes africains. Il a marqué parce qu'il a justement cherché, à partir de sa propre culture, comme Sam Ben ou comme Djibril, chercher une forme qui soit une forme qui émane de sa propre culture, mais avec des moyens techniques qui sont les moyens des Occidentaux. Donc c'est une conjugaison en fait de plusieurs cultures et une façon de porter témoignage à travers un langage complètement différent. Les films de Souleymane, comme ceux de Sam Ben aussi, mais d'une autre manière, étaient des films porteurs d'idéologies très fortes, parce que c'était un homme très engagé, mais aussi avec une poésie qui venait fondamentalement du plus profond de lui-même.
Cette poésie, justement, elle a été reconnue à l'international. En 87, il a remporté le prix du jury au Festival de Cannes pour Yélène, son film. En 2023, Souleymane Cissé, il est revenu au Festival de Cannes pour recevoir le Carrosse d'Or. Et au micro d'Elisabeth Le Quéret, il est revenu sur sa vision du cinéma.
L'Afrique ne peut pas se transporter en France, en Europe ou aux États-Unis. L'Afrique se transporte par les images. Et ces images, des millions de personnes peuvent le voir et connaître réellement l'Afrique. Et tant qu'on n'arrivera pas à ce stade-là, on ne comprendra jamais le continent.
Cette exportation du cinéma, du continent à travers le cinéma, c'était l'un des credos de Souleymane Cissé ?
Oui, c'est-à-dire, c'est pas le cinéma en soi. C'est les images qu'on pouvait ressentir à travers le cinéma. C'est les émotions qu'on pouvait ressentir et de se rapprocher de l'autre, en fait. C'était ça son credo. Il voulait absolument faire en sorte qu'on comprenne l'importance des cultures d'Afrique et la façon aussi dont ces cultures pouvaient s'affronter au monde.
Et il y a aussi toute une notion de transmission hein, dans son œuvre, puisque ces dernières années et même tout au long de sa carrière, il voulait transmettre à la nouvelle génération de cinéastes maliens. Il a notamment exhorté les autorités maliennes à construire des salles pour projeter les films de cette jeune génération. Est-ce qu'il y est parvenu à transmettre, selon vous ?
Alors, c'est vrai que transmettre l'œuvre des jeunes cinéastes, c'était vraiment une de ses préoccupations profondes. C'est pour ça d'ailleurs qu'il avait créé une association qui s'appelait l'UCKO, qui faisait partie de ces grandes institutions panafricaines du cinéma, dans lesquelles les distributeurs et les exploitants se mettaient ensemble. Parce que le gros problème du cinéma sur le continent, encore maintenant, c'est qu'il n'y a pas de salle pratiquement. Et donc les films sont faits, mais les films ne sont pas vus par le public auquel ils sont destinés en premier, c'est-à-dire les jeunes du continent africain.
Il y a des festivals de cinéma sur le continent, notamment le FESPACO qui commence après-demain à Ouagadougou. Souleymane Cissé devait d'ailleurs présider le jury fiction long métrage du festival. Le FESPACO, c'est un festival qui l'a marqué.
C'est un festival qui a été créé déjà par Sam Ben Ousmane et puis d'autres cinéastes dans les années 60, très important, avec Tahar Sheria aussi, qui a dit que j'aurais des journées cinématographiques du Carthage. C'est vraiment les cinéastes qui ont voulu ce festival. Donc pour eux, c'était extrêmement important. En plus, Souleymane a eu deux fois les talons d'or à Ouagadougou pour deux de ses films. Je crois que c'est Barin et Fini. Et c'est vraiment important, c'est une reconnaissance par ses propres pairs. Donc sur le continent africain, avec le public africain, de l'importance des films en fait. C'est pas un jugement occidental ou des prix à l'occidental, c'est pas ça qui est important pour lui. Ce qui est important, c'est de transmettre, comme vous le disiez tout à l'heure. Et donc pour transmettre, il faut être vu. Et donc effectivement, Souleymane était très attaché au FESPACO, était vraiment content, fier d'être président du jury.
Et une dernière question avant de vous quitter, Catherine Ruel. Comment est-ce qu'on pourrait lui rendre hommage de la meilleure des manières ?
La meilleure manière, c'est de continuer à faire du cinéma et de montrer les films. Donc, que renouveler le parc de salles en Afrique, faire en sorte qu'il n'y ait pas que les Occidentaux qui construisent des salles, que les Africains s'en emparent et que aussi les cinéastes africains aient des moyens de travailler. Lui, il n'avait pas fait beaucoup de films à la fin de sa vie parce qu'il n'avait pas les moyens des scénarios qu'il voulait tourner. C'est une question d'argent, le cinéma. Il faut de l'argent. Donc il faudrait peut-être que maintenant la production se développe beaucoup plus. Et pour ça, il faut des aides gouvernementales, il faut une implication des pays.
Et on en parlera évidemment sur RFI. Merci Catherine Ruel d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous avez longtemps animé l'émission Cinéma d'aujourd'hui, Cinéma sans frontières sur RFI. Entretien à réécouter sur l'application RFI Pure Radio et une biographie complète de Souleymane Cissé à lire sur RFI.fr. Midi 55 en temps universel, quatrième et dernier épisode de notre série de reportages dans le nord du Bénin, une zone confrontée à la menace terroriste. Ce midi, direction Banikouara, en raison de sa proximité avec le Burkina Faso, la commune est aussi un lieu de refuge pour les Burkinabés qui fuient les violences dans leur pays. Fin octobre, le HCR, l'Agence des Nations Unies pour le réfugié, recensait plus de 17 000 réfugiés et demandeurs d'asile au Bénin, toutes nationalités confondues. Reportage de notre envoyé spécial, Magali Lagrange.
Sa béquille est posée à côté de lui, des boîtes de médicaments au pied du lit. Il y a 3 ans, avec sa femme et ses 7 enfants, cet homme est monté dans un camion pour fuir les violences dans la commune de la région de l'Est du Burkina Faso, qu'il a vu naître en 1958.
On est quitté là-bas, on est venu au Bénin ici. On est très 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 content parce qu'il nous aide, il nous donne l'argent, on achète le manger. Je suis malade, mais c'est dedans que je prends pour aller payer le produit. Bon, mon enfant, il y a d'autres qui sont à Parakou, il y a d'autres qui sont à Kandi. Comme on n'a pas de champ, il est obligé d'aller travailler pour avoir quoi manger. Je ne sais pas comment je vais remercier au Bénin.
Plusieurs organisations comme la Croix-Rouge et l'UNICEF portent assistance aux réfugiés qui essaient aussi d'avoir des activités pour gagner un peu d'argent.
Il y a tassé d'abord. Les pédales sont ici.
Cette mère de famille, foulard noué sur la tête, manie le métier à tisser installé chez elle, dans la cour quelques animaux. Le souvenir des événements qui l'ont poussée à fuir sa commune de l'Est du Burkina Faso avec 3 de ses enfants est encore vif. C'était il y a 2 ans.
Ça chauffait là-bas. Ça commençait le jour de marché et les gens couraient dire « Ah, ça va pas, ça va pas ». Le militaire vient, des problèmes. Et si on va aussi, les terroristes aussi viennent, c'est des problèmes. On ne savait pas même comment faire. Donc les autres ont commencé à fuir un peu, un peu, un peu. Nous-mêmes, on a commencé à « ça là, ça va pas hein. ». Parce que de ce qu'on trouvait à manger, il n'y a pas. Il faut aller chercher les bois, il n'y a pas. Il y avait les gens qui ont perdu leur mari, leurs enfants. On voit tout le monde partout, on pleut. Donc Dieu merci, j'ai pris mes enfants. Et on est venu à Banikouara ici.
À Banikouara, elle et ses enfants se portent bien. Mais les récents événements sécuritaires dans le nord du Bénin ne la rassurent pas.
Banikouara aussi, à 21, 23 heures, c'est pas bon. Vers Pointe-Truc là-bas. On a vu ça dans le portable. Que les gens là sont venus là-bas pour tirer nos militaires encore, qui nous sauvent. Ça nous a donné peur aussi. Nous, on a quitté là-bas pour venir ici. Si ça commençait aussi, c'est pas bon. Seulement, on va prier Dieu pour Bénin aussi.
Magali Lagrange, de retour de Banikouara, RFI.
Voilà donc pour ce dernier épisode de la série de reportages de Magali Lagrange dans le nord du Bénin. Série complète à retrouver sur notre site www.rfi.fr. Et c'est ainsi que s'achève cette édition d'Afrique Midi, préparée et réalisée aujourd'hui avec Benoît Raymond, Pierre Vallée et Laurent Chaffard. Merci à eux, merci à vous de nous avoir écoutés et je vous laisse en compagnie d'Alban Le Prince pour la suite d'RFI Midi.
Merci Arthur et la suite justement sur RFI, c'est le journal d'Haïti et des Amériques, sauf si vous êtes en Afrique de l'Ouest où vous attendent 30 minutes d'infos en full day et en Afrique lusophone où vous avez rendez-vous avec une demi-heure d'infos en portugais.
Priorité santé.
Charlie Dupiot vous invite à poser vos questions sur le thème de demain.
Enfants et écrans, quels sont les risques de trop regarder le téléphone ou la télévision à un jeune âge? Quelles limites faut-il fixer?
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
8 milliards de voisins.
Cara Ndiaye attend vos témoignages sur le thème de demain.
Sur le continent africain, les femmes jouent un rôle central dans l'agriculture. Outre la production, elles sont également essentielles aux travaux de transformation et de vente. Comment moderniser l'agriculture avec l'aide des femmes?
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 33 7 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.
Les dessous de l'Infox, Sophie Malibaud.
Dès l'annonce des élections en Allemagne, un dispositif de désinformation sous influence russe est activé au profit de l'extrême droite allemande. De fausses nouvelles publiées sur de faux sites selon un mode déjà éprouvé aux États-Unis. Avec Marc Fadoul, enquêteur numérique, nous évoquons ces menaces.